Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, je suis en compagnie d'un jeune anthropologue du CNRS. Alors je vais dire le nom de votre laboratoire, l'Institut d'ethnologie méditerranéenne européenne et comparative à Aix-en-Provence. Donc vous venez du Midi, de cette Provence qui nous est très chère particulièrement. Manuel Pénicaud, bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes ici pour évoquer une figure importante, une figure tutélaire, allais-je dire, que nous rencontrons finalement pour tous ceux qui s'intéressent à l'orientalisme, à ses recherches sur l'histoire de religion. Je pense à Louis Massignon. Donc un sujet que nous allons explorer ensemble, sur lequel je pense nous reviendrons, nous serons amenés à en parler à nouveau. Alors il y a des dates importantes. Ce sont des étapes, j'ai l'impression, dans la vie de ce grand homme. Un homme qui a étudié le rapport des chrétiens d'Orient à l'islam et qui est devenu ensuite un spécialiste de la mystique musulmane, alors par l'étude de différents personnages importants. La première date que j'ai envie de vous jeter en pâture, c'est Bagdad, 1908. Que s'est-il passé ?
Alors à cette date, en 1908, Louis Massignon est un jeune archéologue qui vient du Caire et qui est nommé à Bagdad pour entreprendre des fouilles archéologiques dans le désert, donc en Irak. Et là, il est dans une période d'incroyance, en fait, Louis Massignon, de 20 ans à 25 ans, et donc athée, a été influencé par l'agnosticisme aussi de son père. Il est nommé à Bagdad, et là, il y a un épisode en 1908 très important, dans lequel il est arrêté par les autorités ottomanes, il est accusé d'espionnage, il est même condamné à mort, tombe malade et va être sauvé quelque part par l'hospitalité des musulmans, de la famille musulmane des Alousis en fait, qui est une famille de notables de Bagdad.
Une famille connue, j'ai l'impression.
Oui, une famille de notables qui eux voulaient le convertir et qui vont même jusqu'à prier et à réciter la sourate Al-Yassin sur son lit d'hôpital en fait, le pensant prêt à mourir, et sauf, contre toute attente, il revient à la vie. Et en fait, au préalablement, quelques jours plus tôt, il y a eu un épisode fondamental dans lequel il s'est reconverti au catholicisme, et il l'appellera cet épisode la visitation de l'étranger, c'est-à-dire qu'il reçoit une forme d'appel mystique, hein, donc c'est très important, qui est connecté au saint, qui est en rapport aussi avec la figure du saint Hallaj dont on va parler.
Donc, il est le saint sur lequel il a travaillé après.
Voilà, c'est-à-dire qu'en Égypte, il avait rencontré la figure de Hallaj, qui n'était qu'une fantaisie littéraire, disait-il à l'époque, justement, dans cette période d'incroyance. Mais en 1908, lors de cet épisode mystique de conversion, Hallaj intervient d'une façon mystique, on va dire. Et Massignon va même prier en arabe, d'ailleurs, sa première prière va être en arabe. Et à partir de sa reconversion, donc c'est une nouvelle vie, c'est une métanoïa complète, en fait, il va décider de consacrer sa thèse de doctorat à cette figure mystique de l'islam, sachant que l'étude du soufisme n'était pas partie prenante de l'islamologie telle qu'elle était pratiquée à l'époque.
Alors nous allons revenir sur ce personnage important. Revenons un petit peu, donc c'est quelqu'un qui est... Louis Massignon est né en 1883. Il arrive en 1908, donc au cours d'une mission archéologique à Bagdad. Dites-nous un peu plus tout de même sur la mentalité de ces jeunes gens à l'époque. L'empire se crée, bien entendu, on est au-delà de nos frontières. Mais qu'est-ce qui attire véritablement cette génération vers l'Orient? Je pense au père de Foucault, mais bon, lui est une génération précédente. Qu'est-ce qui les attire?
Massignon, très jeune, est fasciné par l'Orient. Et dans un ouvrage en 1962, il évoque déjà un désir d'Orient dès l'enfance. Et donc, il est, comme il le dit, aussi abonné au bulletin du comité de l'Afrique française, donc dans la France de la Troisième République. Et là, il rêve d'aventure, il rêve de, d'ailleurs, il rêve d'Asie, mais finalement, lui, il va se consacrer au monde musulman. Il va, dès la fin de ses études aux langues orientales, voyager en Algérie, au Maroc. Et c'est là qu'il va faire aussi l'expérience de la rencontre de l'islam. Et comme d'autres, comme Foucault d'ailleurs, que vous avez mentionné, il va se reconvertir justement au catholicisme dans le miroir de l'islam. Et là, il y a une génération importante de. Il y a d'autres cas aussi de jeunes gens qui se convertissent à la belle époque, mais dans le miroir de l'islam.
Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire ? Un jeune chrétien se reconvertit au catholicisme romain dans le miroir de l'islam.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est cela que Massignon ne va cesser de mettre en avant et de valoriser dans ses différents écrits, qu'ils soient d'ailleurs scientifiques ou personnels. Hein, on retrouve cette, et c'est, il va dédier sa vie à la connaissance et à la reconnaissance de l'islam, et tant sur le plan académique que sur le plan, spirituel, puisque les deux sont indissociables chez lui.
Alors nous allons revenir un peu plus tard au lien justement avec les chrétientés d'Orient. Qu'est-ce qu'il trouve dans cet islam qui le fascine tant ?
Alors déjà, je crois qu'il y a la langue. Il deviendra un grand arabisant. Il sera même président du jury d'agrégation de langue arabe ici en France, à Paris. Mais il est frappé par une forme de puissance de révélation. Il l'écrit sur l'arabe. Il y trouve une essence, ou comment dire, une force, ce qu'il appelle aussi le génie sémitique. En fait, il est donc il parle plusieurs langues. C'est vraiment un orientaliste qui parle aussi persan, hébreu, grec, bien sûr, mais
Le génie sémitique, avez-vous dit ?
Il parle du génie sémitique, oui, pour parler quand il parle de la langue arabe. Et aussi, il est fortement frappé, comme l'a été Foucault aussi, par la foi, on va dire, simple et aussi par la mystique, justement, qui existe dans le soufisme, en tout cas musulman, et que ce soit aussi bien de la Perse au Maghreb, en fait.
Le voyage, la découverte sur place, c'est-à-dire qu'il se rend lui-même, comme jeune archéologue, en Irak, à Bagdad, des contacts humains avec cette famille.
Oui, là, je voudrais souligner l'idée de l'hospitalité, lui nomme ça l'hospitalité sacrée. Et donc, c'est l'idée que, donc en islam, mais qui en fait remonte à Abraham, qui est une figure majeure du panthéon massignonien. Abraham recevant les hôtes, les trois étrangers à Mambré, sous le chêne de Mambré, qui est un épisode majeur de Genèse 18 dans la Bible, mais qu'on retrouve aussi à plusieurs reprises dans le Coran. Et cet épisode de l'hospitalité va servir de fil conducteur à toute la courbe de vie, si je puis dire, de Massignon. Courbe de vie, c'est l'expression qu'il utilisait pour Hallaj. Et cette hospitalité, c'est ce qui l'a sauvé d'un destin tragique, donc dont j'ai parlé déjà en 1908.
Hospitalité, il me semble que j'avais reçu il y a peut-être 2 ou 3 ans Claudio Monge qui a fait sa thèse sur l'hospitalité, sur Abraham Haute, je crois.
Oui, exactement. Je connais bien Claudio, qui est à Istanbul, qui est dominicain, qui a sa thèse s'appelle Dieu Haute.
Dieu Haute, voilà. On est dans le même état d'esprit, finalement.
Exactement. Alors, l'approche de Claudio est plus théologique, parce qu'il est dominicain, théologien. Mon approche, moi, d'anthropologue, est beaucoup plus par la pratique, en fait, de comment les choses ont pu être vécues. Et d'ailleurs, c'est un thème de mes recherches que je mène dans mon laboratoire du CNRS, dans la question de l'hospitalité interreligieuse. Comment on accueille l'autre d'une autre religion et comment l'autre est sacré, parce qu'il est potentiellement porteur de la parole divine, en fait.
Manuel Pénicaud, une autre date qui est importante, d'une certaine manière, si on s'intéresse à cette période de l'histoire, c'est sa rencontre et son amitié avec Charles de Foucault. Donc oui. Un autre, alors c'est son aîné, Charles de Foucault est né vers 1854-55, je crois. Donc c'est son aîné, et peut-être même Charles de Foucault espère l'attirer dans son refuge de Tamanrasset.
Exactement. En fait, le jeune Massignon avait consacré un mémoire à l'étude des corporations de Fès à l'époque de Léon l'Africain au Maroc. Et cette étude parvient, par le général Lyoté d'ailleurs, à Charles de Foucault, qui est au Maroc, je crois, à l'époque. Et l'abbé de Foucault va contacter le jeune Massignon, mais qui est justement dans cette période d'incroyance, mais qui va ne pas répondre à cette lettre.
Foucault étant lui-même un converti.
Tout à fait. Et à la suite donc de la reconversion du jeune Massignon. Dès 1909, ils vont se rencontrer à Paris, donc dans un épisode aussi assez célèbre, dans lequel Foucault vient tout de suite rencontrer le jeune Massignon et l'amène dans une veillée de prière au Sacré-Cœur, pardon, à Paris, pour une nuit entière de prière, dont Massignon aura de très belles phrases. Foucault veut que Massignon le rejoigne et devienne son disciple, en tout cas, et lui succède au désert. Et donc Massignon l'appellera d'ailleurs ce grand frère parti au désert. Mais le destin, on va dire, spirituel de Massignon, sur les conseils de son directeur spirituel, va être de rester dans le siècle, en fait, de rester et même de passer les étapes de l'académie, d'entrer finalement au Collège de France.
Mais donc de poursuivre une recherche universitaire.
Exactement, mais en même temps, comme je disais, la recherche aussi spirituelle étant intrinsèquement et indissociablement liée, il reste très proche de Foucault le jour de l'assassinat de Foucault, dont on va célébrer le centenaire cette année. Il venait d'écrire au jeune Massignon en le félicitant d'avoir, fait le choix d'aller au front, aux Dardanelles, en fait, en Orient, pendant la Première Guerre mondiale. Et cette lettre, donc, Massignon la gardera précieusement, parce qu'elle va lui arriver plus tard. Et c'est lui qui va être aussi à l'origine de la publication du directoire, du groupe de prière de Charles de Foucault, et en même temps de l'édition par René Bazin de ce livre qui va faire la renommée de l'ermite de Tamen Rasset.
Nous sommes ce matin en compagnie de Manoël Pénicaud. Nous évoquons la figure importante, tutélaire, allais-je dire, mais finalement très humaine, de Louis Massignon. Alors vous êtes l'auteur aussi d'un ouvrage qu'il faut absolument mentionner, parce que c'est vous avez un peu abordé la problématique de Massignon d'un point de vue très très concret, justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous êtes anthropologue, hein. Le réveil des sept dormants, un pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne, avec une préface de Thierry Zarkon aux éditions du Cerf. Voilà, je crois que le livre a été réimprimé, victime de son succès.
Je ne sais pas si c'est son succès, en tout cas il vient d'être réédité dans une version un peu revue, un peu raccourcie, et j'en suis très très content. Et c'est l'occasion de parler justement d'une des œuvres importantes de Massignon à la fin de sa vie, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard.
On va juste attendre un tout petit peu, j'aimerais que vous me parliez de cette conversion. Alors il y a deux choses importantes dans son étape de vie. C'est la création en 1934 d'un groupe de prière chrétien pour les musulmans.
Tout à fait. Alors ça, c'est assez complexe à expliquer en quelques minutes, mais en 1934, donc Massignon, qui résidait souvent en Égypte, retrouve une jeune grecque catholique melkite, Marie Cahil, qui est une amie qu'il avait rencontrée lors de ses années kérotes au début du XXe siècle. Et tous deux vont fonder cette sodalité de prière qui est, en fait, dont l'objectif consiste à prier pour le salut des musulmans, donc où l'objectif est de s'offrir à la place de l'autre, et donc l'autre étant les musulmans. Badalia en arabe, Massignon le traduit par substitution.
Donc c'est Badalia.
Badalia. Donc c'est l'idée de s'offrir à la place des de s'offrir même en otage, hein. Il y a une citation qui dit que les membres de la Badalia doivent s'offrir, je cite, en otage volontaire, rançon offerte pour leurs hôtes au jour du jugement. Donc jugement qui précédera la réconciliation finale. Et donc là, il s'agit vraiment c'est quelque chose de une entreprise spirituelle, on peut dire, si je puis dire, qui est en fait dans les pas, hein, de l'association de Charles de Foucault. Et donc il s'agit surtout pas là de prier pour la conversion des musulmans, mais au contraire pour leur salut, en les laissant rester musulmans. Et donc cette Badalia va essaimer à partir de l'Égypte, hein, des chrétiens d'Orient en Égypte, et va il y a donc un réseau, il y a une dimension réticulaire qui apparaît entre Beyrouth, Rome, Paris, avec des groupes et des rassemblements mensuels, avec des jeunes, les premiers vendredis du mois, par exemple, en solidarité avec les musulmans, où les fêtes musulmanes aussi sont, disons, célébrées, ou en tout cas en union de prière. Et cette confédération, hein, ce groupe qui est secret, en fait, on n'a pas de liste claire et de ses membres, mais on sait, par exemple, que le cardinal Montini, qui va devenir le pape Paul VI, était membre de la Badalia. Et donc, ce groupe, ces groupes vont avoir une influence aussi sur le concile, et notamment dans la dimension œcuménique et dans les relations avec les religions non chrétiennes.
Jusqu'à quand ces groupes vont durer ?
En fait, la Badalia va petit à petit se disloquer après la disparition de Massignon en 1962, même s'il y a eu des continuations à la fois en Orient, mais aussi à Paris. Et donc, il y a aujourd'hui d'ailleurs des groupes qui se réclament, en fait, hein, de cette. Là, c'est aussi l'anthropologue qui peut dire qu'il y a des reconfigurations et des continuations de cette sodalité.
C'est passionnant. 1950, ordination secrète de Louis Massignon dans le rite catholique melkite.
Alors voilà, Massignon avait déjà reçu la bénédiction du pape de ce vœu de Badalia, en fait, hein, qu'ils avaient, avec Marie Cahil, formulé en 34. Et en 1949, Massignon reçoit aussi une dérogation papale de Pie XII pour entrer dans le rite catholique melkite. Donc l'église catholique melkite est une des églises catholiques orientales, parce qu'il était marié, avait déjà des enfants, et donc c'était une forme de dérogation spéciale pour qu'il entre dans le sacerdoce.
Le seul moyen peut-être était de passer par un rite oriental.
Certainement, mais
rattaché
il
à Rome.
Exactement, mais il avait aussi une telle attachement déjà à ce rite catholique melkite dont j'ai parlé dans la Badalia, et aussi à la langue arabe, puisque ce rite permet la liturgie en arabe. Et c'était pour Massignon aussi un point nodal et un central.
On en revient à la question de la langue dont vous parliez tout à l'heure.
Exactement, oui. Et d'ailleurs, on va...
Le
génie sémitique de la langue arabe, exactement.
J'aimerais que nous évoquions, Manuel Pénicaud, ensemble, une figure importante que nous avons connue tous les deux dans le désert de Syrie, un petit peu au nord de Damas. Un ermitage un peu reculé, le monastère de Marmoussa avec la figure du père Paolo. Lorsque je l'ai visité la première fois en 2001 ou 2002, je ne me souviens plus très bien, c'est chez lui que j'ai entendu pour la première fois le nom de Louis Massignon. Alors vous l'avez connu, vous l'avez rencontré, vous l'avez filmé je crois. Il avait essayé lui-même de recréer le père Paolo. Il faut peut-être expliquer qui il est, ce jésuite qui s'est installé en Syrie et qui a disparu malheureusement enlevé par l'État islamique depuis 2 ans.
Oui, Paolo Dall'Oglio est un jésuite qui est né en 1954 à Rome et qui a dédié dans les pas de Massignon sa vie aussi à la compréhension de l'islam et qui est allé très loin dans l'entreprise, on peut dire, d'inculturation, hein, c'est un mot de l'Église qui parle justement de la mission en fait d'aller en terre d'islam mais sans chercher à convertir en fait encore une fois les populations locales. Et Paolo avait refondé un monastère syriaque catholique et une congrégation qui s'appelle Al-Khalil, pardon, du nom de l'ami de Dieu, donc Abraham dans le Coran et en arabe. Il avait créé dans ce monastère de Marmoussa au nord de Damas un lieu dédié au dialogue islamo-chrétien et dans la droite héritage, dans la ligne aussi vraiment très spirituelle et islamo-chrétienne tracée par Louis Massignon. Et oui, je m'y suis rendu. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Paolo Dall'Oglio, moi c'était seulement en 2007, mais je me suis retrouvé dans sa voiture pour aller sur la tombe de Massignon en Bretagne, à Pordic. Et donc là, ça a été une rencontre assez fulgurante aussi de cet homme qui est d'une trempe extraordinaire. Et d'ailleurs, on ne sait pas du tout quel est son sort aujourd'hui. Il serait allé libérer des otages kurdes et musulmans à Raqqa, au fief de l'État islamique, dans l'idée de Badalia, justement, dans l'idée de s'offrir en otage volontaire pour le salut de ces prisonniers.
Pour ceux qui ont connu, qui ont eu la chance de connaître la Syrie d'avant-guerre, maintenant, on peut parler de cette date de 2011 comme un tournant à tout point de vue, et ceux qui se sont arrêtés au monastère de Marmoussa, l'autre chose qui frappe après la mention et la référence à Louis Massignon, c'est l'hospitalité dont vous parliez tout à l'heure.
Exactement.
Ces jeunes Syriens, étrangers.
Exactement. Le père Paolo avait réussi à créer un monastère ouvert, basé sur 3 règles. Donc une règle basée sur 3 piliers, dont l'un des piliers était clairement l'hospitalité abrahamique, donc l'accueil inconditionnel de tous les visiteurs, qu'ils soient chrétiens, athées, puisqu'il y avait aussi beaucoup de touristes, mais aussi musulmans. Et donc cela a donné un lieu particulièrement ouvert. Et c'est un sujet vraiment qui m'intéresse beaucoup pour montrer que ces lieux peuvent être aussi des espaces de circulation, de porosité, comme je disais tout à l'heure, d'hospitalité interreligieuse.
Est-ce que cette notion d'hospitalité pourrait ne pas être étendue hors du Proche-Orient? Est-ce qu'elle ne peut pas être, comment dirais-je, une source aussi pour notre Europe occidentale? Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir aussi à cette possibilité d'être...
Tout à fait. C'est un mot clé qui, d'ailleurs, étymologiquement, le revers de l'hospitalité, c'est l'hostilité. Et en fait, on balance sans cesse, enfin, on est toujours entre les deux, dans une oscillation permanente. Et je suppose que si Massignon était vivant à ce jour, il prendrait des positions évidentes sur la question des réfugiés en Syrie, puisque déjà de son temps, il n'a cessé aussi de prendre position pour les réfugiés palestiniens, etc. Donc il était clairement engagé aussi pour cette question des personnes déplacées. C'était pour lui un drame, justement, de voir le sort qui était réservé à ces populations. Et je crois que c'est un thème qui sera malheureusement et toujours d'actualité.
Alors sur Marmoussa, nous avons parlé de Marmoussa. Je voudrais mentionner le livre de Guillaume de Monjou qui était sorti chez Albin Michel, je crois, il y a quelques années. Vous reviendrez, Emmanuel Pénicaud, s'il vous plaît, dans une émission prochaine pour que nous continuions ensemble ce voyage sur l'île Massignon. Il faut bien comprendre que nous ne faisons que l'aborder pour le moment. Hein. C'est une bibliographie monumentale et j'aimerais vraiment que nous revenions ensemble d'ici quelques mois autour de votre travail Le réveil des sept dormants, un pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne, un livre qui vient de sortir aux éditions du Cerf. Est-ce que vous reviendrez ?
Je reviendrai avec plaisir pour parler vraiment de ce lieu qui est un lieu aussi laboratoire que Massignon a fondé en 54, dans lequel il a, au nom de cette hospitalité justement, inviter les musulmans à participer à un pèlerinage catholique dédié aux sept dormants d'Éphèse, qui sont des saints qu'on retrouve aussi dans le Coran. Et donc c'est une entreprise, encore une fois, ou une initiative qui est vraiment précurseur du dialogue islamo-chrétien et qui permet de voir tout l'historique depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, puisque ce pèlerinage est encore en activité chaque année, qui permet de relire en fait les problématiques du vivre ensemble, du dialogue, et je crois que c'est plus d'actualité que jamais.
Je remercie Valérie Lavalard, Dany Journeau, Didier Pinault pour la réalisation de cette émission Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois. Nous avons reçu ce matin Manoël Pénicaud, je rappelle le titre de son ouvrage, Le réveil des sept dormants aux éditions du Cerf, préface de Thierry Zarcone. Nous retrouvons le service protestant maintenant en compagnie de Michel Schaeffer. Merci.